vraiment à la porte de notre cœur, où tu nous as convaincus de péché, où tu nous as amenés à ces souffrances profondes intérieures, où nous avons réalisé, non pas parce que on nous le prêchait, mais parce que c'était vrai que nous étions perdus, et que nous ne pouvions pas compter sur le lendemain, puisque notre vie, qu'est-elle? Un souffle qu'à tout instant tu peux retirer. Et alors, subitement, nous serons dans ta présence, devant celui qui aurait voulu nous accueillir comme un père, parce que nous avions reçu son fils, et qu'en son fils nous avions le pardon, mais qui devrait nous recevoir comme un juge, parce que nous aurons méprisé sa grâce. Nous nous souvenons de ce jour où nous n'avons plus pu résister et où nous sommes venus à toi. Et Seigneur, depuis, les années ont passé. Tu as toujours été avec nous. Nous ne t'avons pas toujours été fidèles. Nous avons souvent eu des manquements. Et nous avons attristé ton cœur. Mais tu nous as fait revenir à toi. Et nous voudrions te demander que tu nous parles à tous ce soir. Que tu nous montres aussi quel a été notre chemin jusqu'à ce jour. Et comment nous avons marché depuis notre conversion, depuis ce jour de nos fiançailles avec toi. Tu veux que nous apprenions à regarder les traces que nous avons laissées. Seigneur Jésus, encore une fois, nous voudrions te demander pardon pour tout ce qui n'a pas pu te plaire dans notre vie. Et nous voulons te prier que ce soir, quelle que soit notre condition, tu renouvelles notre foi. Car sans la foi, il est impossible de te plaire. Et montre-nous, une fois de plus, ô notre Dieu, que le salut que tu donnes n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est ton fils, ton bien-aimé, auquel tu veux que nous soyons fiancés. En attendant le jour de cette union totale. Par ton esprit, saisis-nous, bénis-nous, et donne-nous de savoir prendre une décision pour toi, pour ta seule gloire et notre bonheur éternel. Amen. Amen.
Bien, mes amis, nous continuons le thème « Fiancé au Christ ». Et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens poussé à vous relire quelques versets que nous avons déjà lus ce matin. Mais ça vaut peut-être la peine de les relire. Dans Jérémie au chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Vous me direz, mais nous sommes encore jeunes, hein? Certains, oui. Mais vous voyez que le Seigneur a
de la mémoire.
Et quand vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, il a eu de la joie, il y a eu de la joie dans le ciel, nous l'avons déjà souligné, parce que la Bible dit, devant les anges de Dieu, il y a eu de la joie. Vos noms ont été prononcés. Et on a souligné que vous étiez écrit dans le livre de vie. Mais, depuis, quelle a été votre marche? Nous vous avons dit ce soir que, sur le journal d'aujourd'hui, il est parlé de la marche des gays, et des lesbiennes, ou à Toronto, 60 000 personnes. En défilé, tous, des gays et des lesbiennes, dans les rues de Toronto. Et combien de personnes se sont dérangées pour les voir passer? 600 000. Vous ne trouvez pas que c'est effrayant? Vous savez, le jugement, il est tout proche. Puis ça sera subi. C'était cette année. Ce sera très rapide, ce qui va venir. Alors, mes chers amis, c'est l'heure, je le crois, de prendre position. Et si nous nous sommes relâchés dans notre marche, nous voulons que dans ce temps, nous puissions dire au Seigneur, pardonne-nous. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et nous laisser convaincre. Est-ce que le Seigneur a eu la première place? Et je dis pour moi-même, et je sais que j'ai toujours encore à m'humilier devant mon Dieu, mais je sais que il ne résiste qu'aux orgueilleux. Mais c'est grâce aux autres. Je n'ai jamais été tant béni que lorsque je me suis humilié devant Dieu. Et que j'ai appelé mon indifférence, ma tiédeur, par leur nom. Et le Seigneur nous renouvelle. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors, vous voyez que il faut bien penser que le Seigneur est une personne. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Quand on s'est fait baptiser, par exemple, parce qu'on avait compris que vraiment, c'était une obéissance. Et que nous renoncions à la vie du monde, à la vie passée, pour vivre pour le Seigneur. Le Seigneur nous dit, je me souviens de ce moment-là. Oh, je me souviens de ton amour. Quand tu étais jeune. De ton affection. Lorsque tu étais fiancé. Oh, que j'aime cette expression. Donc, c'est vraiment... C'est pas moi qui ai inventé cette histoire, fiancée au Christ. C'est dans la Bible. Et je vous ai dit qu'il y a plus de 30 passages où il est parlé des fiançailles et du fiancé ou de la fiancée. C'est pas la cohabitation. La cohabitation, c'est le péché. Le Seigneur, selon sa parole, pour ceux qui lui appartiennent, a établi des fiançailles. Quand on veut vraiment se donner au Seigneur, eh bien, on respecte ce qu'il a écrit. Je me souviens de ça. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Vous aviez un cœur qui aimait le Seigneur, je le sais. Et parlant d'Israël, il dit, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Oh, le Seigneur a droit à avoir les prémices de votre vie. Et puis, vous connaissiez les bénédictions qu'il vous donnait. Puis alors après, le Seigneur constate que ce n'est plus la même chose. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes familles de la maison d'Israël. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le même amour? Qu'est-ce qu'on a trouvé en Jésus qui a pu nous déplaire? Il est sensible. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Voilà ce que le Seigneur pense. Après quoi courons-nous? Un jeune homme m'a dit, il n'y a pas si longtemps, « Oh, mais je n'ai pas les mêmes valeurs que vous. » J'ai dit, « Quelles sont tes valeurs, alors ?»« L'argent. » Et oui. On a appelé ces nouvelles valeurs l'OAS. Hein, vous connaissez ça. L'orgueil, l'argent et le sexe. Voilà les nouvelles valeurs. OAS. Ça voulait dire aussi autre chose autrefois en France, avec l'Algérie. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Oh, que Dieu enlève de nos cœurs cet orgueil. On veut avoir un grand nom dans ce monde. Je l'ai dit quelquefois, mais ça m'est toujours resté. Je vois le chemin où je me promenais avec mon père, j'étais encore bien jeune. Et puis j'avais aussi des plans pour mon avenir. Et j'entends encore me dire, tu sais, au fond j'aimerais mieux que tu sois ramoneur dans ce monde et que je te retrouve au ciel un jour. Plutôt que d'avoir un grand nom dont on parle et que tu n'y sois pas. Vous savez, il y a ces paroles qui nous restent. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants par leur ambition très grande pour leurs enfants. Mais dans ce monde, on ne brille pas longtemps, vous savez. Et qu'est-ce qui arrive après? Le corps retourne à la poussière. Mais alors, vous avez Brel pour vous consoler. Est-ce qu'on chante, est-ce qu'on danse? Quand on me mettra dans le trou, ah, c'est encourageant. J'ai rien contre elle, hein. Mais c'est ça. Un jour, vous serez dans le trou. Ce monde que vous avez tant aimé, auquel vous aurez tout donné, votre force, vos capacités, il n'y aura plus de place pour vous. On vous mettra dans le trou. On ne peut pas vous supporter une fois mort. Et nous devons tous passer par là. Oh, que je voudrais que vous puissiez saisir ce qui vous est proposé aujourd'hui encore, puisqu'on a dit que c'est un jour de grâce. Car si le corps va dans la poussière, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Et puis, comme il l'a dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, qu'est-ce qu'il y a? On va renaître? Non. Après cela, il y a le jugement. Et c'est maintenant qu'il faut renaître. Pour aller auprès du Seigneur. Alors vous voyez, la souffrance du Seigneur. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être même que néant? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Ils avaient été délivrés d'une façon merveilleuse, puissante. Ils avaient vu les 10 plaies, 10 miracles que le Seigneur avait donnés pour les Égyptiens afin de les convaincre. Ils avaient été conduits après la passage de la mer Rouge dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où régnait la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passait, où n'habitait aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous mangiez des fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et quand on voit cela, n'est-ce pas, c'est vraiment une souillure. Des hommes presque à moitié nus qui se promènent dans les rues de Toronto et qui vivent ensemble comme s'ils étaient mari et femme. Et des femmes qui vivent ensemble comme s'ils étaient vraiment des couples. C'est la négation de tout ce que Dieu a fait. Alors, mes amis, quand ça devient tellement public et que 60 000 de ces gens-là, j'ai de la compassion pour eux, mais 60 000 de ces gens-là font cela, c'est une manifestation pareille, et que 600 000 des habitants de Toronto vont regarder cela, bien vous savez, ça vous montre que le jugement est à la porte. Et je me souviens, qu'en 1960, la première fois que je suis venu au Canada, on me disait, mais vous savez, la ville la plus chrétienne du Canada, c'est Toronto. C'est pourri de chrétiens, c'est vrai. Tout venait de Toronto, hein. Pour l'évangélisation, il fallait être avec Toronto pour que l'on reçoive des dons, de l'argent pour évangéliser ce pauvre Québec. Oh, mes amis, vous savez, ça va vite. Le jugement vient. Et nous allons lire quelque chose au sujet du jugement. Dieu ne voudrait pas juger. Il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais il voudrait sa conversion et sa vie. Mais moi, je ne peux pas vous convertir. Quand je vous ai dit que un jour on nous met dans le trou, il y a 4 semaines, j'ai vu cela. Dans un cimetière à Cannes, un jeune homme de 23 ans, et on l'a mis dans le trou. Et j'ai regardé le trou, il était très profond, parce qu'il y avait 5 places pour mettre l'un sur l'autre. Et il était le premier. Il y avait le père, la mère qui était là, il y avait les trois autres enfants. Puis on avait mis le jeune homme, un beau jeune homme de 23 ans, dans le trou. Puis il y avait toute une foule tout autour. Oui, c'est comme ça que ça finit. Mort à 23 ans. Eh bien, mes amis, il faut savoir vivre avec le Seigneur. Vous êtes venus dans le bon pays que je vous donnais. Vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Est-ce que c'est une abomination, ça, ou non? L'homosexualité, est-ce que c'est une abomination? Ou bien, c'est l'amour? Quand je pense qu'on peut dire que c'est ça, l'amour, vous en avez fait une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Et je vous ai montré autre chose. Je n'ai pas ici, peu importe. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Il y a des pasteurs qui bénissent des mariages d'homosexuels ou de lesbiennes. Et on veut leur faire adopter des enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, bien sûr. Et les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Verset 8. Les prophètes ont prophétisé par Baal, c'est-à-dire les idoles. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Mon peuple a changé sa gloire, qu'il n'ait d'aucun secours. Puis, regardant le ciel, verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Mais est-ce que nous avons encore ces réactions? Non, on est tellement habitués à voir le mal. C'est partout comme là. C'est dans toutes les villes qu'on organise maintenant ces marches-là. Et puis pour résister à ces marches, nous les chrétiens, en disant, ben il nous faut faire aussi des marches. Faire des marches. Un jour par année. Puis se glorifier. On a eu tant de chrétiens qui ont marché pour Jésus dans la ville de Montréal ou ailleurs. Chers amis, nous ne connaissons plus les pensées du Seigneur. Celui qui se réclame du Seigneur, il est dit qu'il doit marcher comme lui a marché. Quand? Le dimanche matin, en allant au culte, en gardant un petit peu de religion? Non. Il doit marcher tous les jours comme Jésus a marché. Parce que c'est Jésus qui est en nous. Et c'est lui qui nous conduit. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau vive. Et je voudrais vous poser affectueusement cette question. Est-ce que le Seigneur est pour vous une source d'eau vive? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que en lui, dans votre relation avec lui, il y a un renouvellement de vie? Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pourquoi faire? Pour se creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah oui, on fait quelque chose pour le Seigneur. Et je lis encore, dans le même chapitre, verset 32e, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Bien, on a parlé ce soir de Enoch. Lui, il avait marché 65 ans. Il avait vécu 65 ans, puis à la naissance de Méthuselah, il s'est mis à marcher avec Dieu. Et combien de jours a-t-il marché avec Dieu? 300 ans. Puis qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas allé dans le trou. C'est le seul qui n'est pas allé là. Il a été enlevé. Mais avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Vous savez, on est observé du haut du ciel. Et au sujet de cette fameuse ceinture, je lis encore au chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetais la ceinture selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Vous voyez, Dieu des fois parle deux fois. Comme ce soir, je vous redis des choses que vous avez peut-être entendues ce matin. Il me redit une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, c'est le fleuve, un grand fleuve. Et là, cache-la dans la fonte d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Parce que le Seigneur voulait donner une leçon à Jérémie. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Et ça ne vous dit rien, cela? Une ceinture, elle doit être portée. Et si vous voulez savoir ce que signifie la ceinture, il faut aller dans le chapitre 6 des Éphésiens. Nous vous l'avons cité aussi. Elle fait partie de l'armure complète de Dieu dont tout croyant doit être revêtu. Au chapitre 6, donc, des Éphésiens, au verset 10e, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, quoi? La vérité pour ceinture. La ceinture, elle doit toujours être sur nos reins. Et vous savez, c'est pas la demi-vérité, c'est la vérité. Et je voudrais bien souligner une chose. C'est qu'un vrai chrétien, il en a terminé avec le mensonge. Il ne tolère pas le mensonge. Je peux mentir, mais si je mens, le Saint-Esprit est tellement contristé en moi que je perds immédiatement la joie de mon salut. Je dis pas que je suis perdu, mais c'est pas possible pour moi de vivre dans le mensonge. C'est impossible pour un chrétien peut tomber, un chrétien peut pécher, mais c'est impossible pour lui de vivre dans le péché. Car le Saint-Esprit qui a fait sa demeure en nous et qui fait demeurer le Seigneur en nous est tellement attristé qu'il coupe la joie. On n'a plus cette joie avec le Père Céleste. Mais est-ce que nous avons compris cela? Et que nous avons saisi que ce sont des choses vraies, et que la vie chrétienne, c'est une vie de toutes les heures. La ceinture, il ne faut pas l'abandonner. Or, justement, maintenant, on abandonne la ceinture. Jusque dans les églises. Ce n'est plus la parole qui fait autorité. On dit, mais c'est plus possible, maintenant on est dans un autre temps. Ben oui, on est dans un autre temps. Et vous savez quel temps c'est? C'est le temps de la fin. C'est le temps où le jugement de Dieu va fondre. Et alors écoutez maintenant ce que Dieu dit de ce jugement. Au chapitre 13 de Jérémie. Verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux. Car l'Éternel parle, pas moi. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Avant quoi? Avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurte contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort et la réduira en obscurité profonde. Verset 17. Si vous n'écoutez pas, et évidemment vous pouvez ne pas écouter, je pleurerai en secret. Vous voyez cette attitude de Dieu? Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. C'est grave. Mais il y a une souffrance dans le cœur de Dieu en pensant qu'il doit juger le monde. Et Dieu est saint, il est juste, et il nous a avertis. Alors je pense que maintenant nous pourrons aller plus loin. Maintenant que nous avons vu clairement ce que sont les fiançailles dans les Écritures. C'est le temps qui est mis à profit avant le mariage. C'est un temps où l'on apprend à se connaître et à s'aimer selon le Seigneur. Et on a appris, selon l'Écriture, ce qu'on est en droit d'attendre d'un fiancé et d'une fiancée dans la Bible. C'est quoi? C'est la fidélité. Hein? C'est la fidélité. Alors maintenant, nous voudrions en savoir plus long sur la personne du Seigneur qui nous considère comme sa fiancée. Lui est notre fiancé, nous l'avons lu dans Osée 2, « Je serai ton fiancé ». Et nous avons montré que les fiançailles avec le Seigneur, c'était la conversion. Et lui, le Seigneur, nous considère déjà comme étant son épouse. Et lui, il voudrait que nous le considérions comme l'époux de notre âme, comme vraiment notre mari, même si le mariage, l'union totale, n'a pas été célébrée, parce que ces noces, selon l'Écriture, elles seront célébrées au retour de Christ. De sorte que j'insiste sur ce fait que notre conversion, comme il le dit lui-même dans le Cantique des Cantiques, c'était le jour de la joie de son cœur. Vous lui avez donné de la joie. Et s'il y en avait qui se convertissent dans cette journée du 3 juillet 1995, quelle joie le Seigneur aurait. Alors, il s'agit pour nous maintenant de savoir qui est ce Jésus, notre bien-aimé. Eh bien, c'est le Fils unique de Dieu. Et comme je vous l'ai déjà dit, essayez de vous oublier vous-même, d'oublier vos besoins, pour regarder à ce que Dieu est. Si vous êtes fiancé au Fils unique de Dieu, quel père avez-vous? Le père de qui? Le père de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a parlé de son père. Et tout ce qu'il a fait, l'a fait par amour pour son père. Et puis il nous a dit que le Père nous aimait déjà comme il était lui-même aimé. Et alors, qui est ce fiancé? C'est celui qui est descendu du ciel jusqu'au plus profond des abîmes, ce qui est appelé les parties inférieures de la terre. Puis il est remonté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Est-ce que vous avez déjà pensé que Jésus remplit toutes choses? Voyez-vous, le résumé de l'histoire de l'humanité, c'est pas seulement les souillures du mal et de la corruption. Il y a cela dans le monde, c'est vrai. Mais quand on y pense, nous constatons qu'au cours des âges, on a toujours limité, contrarié, entravé les bénédictions de Dieu qu'il répand pourtant avec tant de libéralité. Il n'y a pas seulement cette histoire du péché et de toutes les abominations, mais Dieu a tant aimé qui ? Le monde. Il l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, c'est nous qui limitons Dieu, c'est nous qui contrarions Dieu dans sa bonté. C'est nous qui entravons les bénédictions. Oui ou non? L'Écriture vous dit que vous êtes bénis, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes bénis de toute bénédiction. Mais est-ce que nous les saisissons? Est-ce que nous les prenons, ces bénédictions? Est-ce que nous croyons que nous sommes des bénis? Ou bien est-ce que nous voyons seulement notre misère? Ce que nous devons voir, c'est ce que nous avons en Jésus. Cessez de vous regarder comme nous l'avons dit, mais regardons-lui. C'est lui votre fiancé. C'est lui votre avenir. C'est pourquoi je vous dis, tout est devant vous. Si vous avez Jésus devant vous, vous avez les yeux fixés sur Jésus, non pas les yeux fixés sur vous-même, les yeux fixés sur vos difficultés. Vous avez des difficultés, moi aussi j'en ai. Nous avons des souffrances. Mais regardons à Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il peut renouveler en un instant notre foi et faire de nous des hommes nouveaux. Des hommes qui croient que c'est vrai, ces bénédictions, qu'il est déjà le vainqueur. Il était dans la gloire. Est-ce c'est vrai qu'il est descendu sur la terre? En quelle année est-ce que nous sommes? 1985. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu un homme qui s'est appelé Jésus. Nous sommes dans l'ère dite chrétienne, qui n'a plus rien de chrétien à peu près. Mais on est encore dans cette ère dite chrétienne. Donc, même l'athée, quand il signe son courrier, il a mis la date. Il a reconnu que Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre. Je ne peux pas nier ça. Mais, il reviendra. Étant venu sur la terre, il a accompli l'œuvre de notre salut. Il est remonté dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit en partant? Je vais vous préparer un trou. Vous voulez être dans un trou dans le ciel? Je vais vous préparer une place. Et une belle place. Mais alors il faut penser à des choses qui sont en haut. Et puis vous préparer pour ce jour où vous serez avec lui dans la gloire. Alors à la fin d'une journée, est-ce que vous pensez peut-être à Dieu, hein, à la fin d'une journée? Vous pensez peut-être à ce que Dieu vous a donné? Est-ce qu'on pense chaque jour à ce que Dieu nous a donné? Ou est-ce qu'il a été pour vous? Mais nous devrions plutôt nous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour entraver la bénédiction? Pour contrarier le Seigneur? Pour l'empêcher d'accomplir ce qu'il aurait voulu avec moi? Parce que voyez-vous, le servir, c'était disponible pour lui. C'est pas essayer de faire quelque chose pour lui. Je suis tellement désolé quand je reçois des lettres, on me demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? ne vous demande pas de faire d'abord, il vous demande d'être. Qu'est-ce que vous pouvez être pour le Seigneur? Quelqu'un qu'il aime. Et si vous aimez le Seigneur, vous saurez toujours ce que vous avez à faire. Il vous le montrera heure après heure. Puis vous apprendrez à connaître que votre fiancé, c'est celui qui est l'amour. La première fois qu'on trouve l'amour, vous savez où c'est? C'est Jésus qui en parle. Dans le chapitre 17 de Jean, nous l'avons lu déjà, il dit, Père, tu m'as aimé quand? Avant la fondation du monde. Donc, l'amour vient, existe avant la fondation du monde. Et qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est Dieu. Dieu est amour. On l'a vu avec les enfants, les trois mots merveilleux, Dieu est amour. Et dans ce Dieu se trouve celui qui est appelé le Fils unique du Père. Il est où? Dans le sein du Père. Dans le sein du Père, avant le commencement de la création, il y a une personne qui est appelée par Dieu le Fils unique. Vous me direz, mais c'est pas possible de comprendre ça. Comment il y a un Dieu, puis il y a un Fils unique qui est Dieu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que le Fils est Dieu? Lisez le chapitre 1er de Jean. Et c'est cela que je vous laisse ce soir pour votre méditation. Au commencement. Mais donc, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'amour. Hein? Jean 17. Avant le commencement. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Hein? Alors. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui était cette parole? C'était le Fils unique. Il est appelé le Fils unique. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est lui que nous allons chercher à connaître. Et je vais terminer. Nous continuerons demain. Mais je voudrais, je l'ai peut-être déjà dit, certains s'en souviennent. Un jour, il y a 40 ans, bien sûr, je passais par une très grande épreuve. Et j'étais seul au bord du lac de la ville où j'habitais. Et à 8 heures du soir, j'étais tellement désespéré que j'ai dit, en écoutant les vagues qui venaient jusqu'à mes pieds, oh Dieu, fais-moi connaître encore une fois que tu m'aimes. C'est tout dont j'avais besoin. D'être sûr que malgré tout ce que je traversais, Dieu m'aimait. Et c'est tout ce que je lui ai demandé. Fais-moi éprouver que tu m'aimes. Puis je suis rentré chez moi.
C'est vers 3h du matin. Le Seigneur m'a visité. Mais d'une façon tout à fait étrange. C'était dans la nuit, puis je me voyais debout dans la chambre. Et je me voyais tellement mauvais, tellement horrible, que je ne pouvais plus me supporter. La vision de cet homme, qui était moi, était tellement horrible, j'ai haï cet homme. C'était moi-même. Et il paraît que je me suis écrié, un tel homme n'est pas digne de vivre. C'est la conviction que j'avais. Mais à ce moment-là, cet homme que je voyais, c'était plus moi. C'était qui? Jésus. Je n'oublierai jamais. C'était Jésus, couvert de mes péchés, couvert de toute ma misère, et j'ai entendu Ecce homo. Voici l'homme. Les paroles de Pilate qui montre Jésus qui va être crucifié. J'avais demandé à Dieu, fais-moi éprouver que tu m'aimes. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour me montrer qu'il m'aimait? Il m'a convaincu de péché. Il m'a convaincu que je méritais 1000 morts. Que je n'étais pas digne d'aller au ciel. Mais qu'il m'avait tellement aimé que lui avait tout pris. Et voyez-vous, on oublie trop souvent ce que le Seigneur a fait pour nous. On aura l'occasion d'en parler. Votre fiancé, c'est le Christ. Et qu'est-ce qu'il a donné comme signe de son amour? Il a donné sa vie. Dieu notre Père, nous voulons seulement te demander que dans ce camp, fasse ton œuvre par le Saint-Esprit. Et que nous ne puissions pas résister à ton amour. Révèle-nous ton amour. Ramène-nous à la croix où tu as subi tous les tourments pour nous racheter et donne-nous maintenant en réponse à ton amour de t'aimer comme une fiancée aime son fiancé et ne vit en pensée que pour lui. Donne-nous de ne pas essayer de raisonner ou de comprendre. Car c'est toi qui nous révèles dans ta parole. Que tu as tant aimé le monde. Que tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Que nous puissions savoir ce soir, d'une façon toute nouvelle, ce qu'est cette vie éternelle, et que nous puissions en vivre jusqu'à ce que j'aime. Amen.